eh bien, en tirer les uns et les autres, et puis pouvoir passer, parce qu'il y a des caps particuliers dans la vie où des fois c'est trop fort. C'est trop fort et on ne sait plus. Des fois même, on prononce des paroles que l'on va regretter après, et on en est là, on ne sait plus que faire. Alors, j'aimerais ouvrir avec vous la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 18. On va faire une lecture de quelques versets, jusqu'au verset 25 inclus. Voici ce que nous lisons. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Une jeune fille avait une conversation avec son papa parce qu'elle vivait des temps difficiles. Et voilà à un moment donné comment elle s'est exprimée. Elle a dit à son père, j'ai trop de problèmes. Je vais tout laisser tomber. Peut-être que c'est déjà venu à votre esprit, dans certains domaines, peut-être même dans le domaine de la foi. Je le disais en introduction, des fois c'est difficile, on ne sait plus que faire. Et on est prêt à baisser les bras. Alors son papa était cuisinier de métier. Il l'a conduit dans la cuisine. Et voilà un petit peu la réponse qu'il lui a donnée. Il a mis trois casseroles sur le feu, la cuisinière. Dans la première, il va mettre donc casserole avec de l'eau, hein, ça commence à chauffer. Dans la première, il va mettre des carottes. Dans la deuxième, il va mettre des œufs. Et dans la troisième, il va verser du café qu'il avait moulu. Il a laissé cela pendant 20 minutes. Il a laissé faire les choses. Et ensuite, il va demander à sa fille, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Elle lui dit, ben, je vois des carottes, des œufs et du café. Elle ne comprenait pas ce que faisait son père. Puisqu'il a dit, écoute, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alors, quand il a sorti les carottes, il les a mis dans un bol, les œufs, il les a mis dans un bol, et le café, il l'a déversé dans un bol lui aussi. Alors, il dit, maintenant, écoute. Avant sa main, il touche les carottes. Qu'est-ce que tu sens? Ben, elles sont molles. Et il lui dit, et maintenant, prends un œuf. Alors, prends un œuf, essaie de le serrer, de l'écraser. 20 minutes après, l'œuf, il est bien dur, hein, parce qu'en 10 minutes, c'est cuit. Hein. Alors, il était complètement dur. Et puis, il lui dit, maintenant, goûte. Goûte un petit peu le café. C'était délicieux, ça parfumait la pièce, mais c'était très bon, bien sûr. Hein. Alors, elle lui dit, mais attends, mais je ne comprends pas ce que tu veux me faire comprendre. Explique-moi. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Alors il dit ceci, chacune de ces choses a dû faire face à la même eau bouillante. Chacune de ces choses. La carotte, souviens-toi, je te l'ai montrée, elle était dure. Regarde comment elle est devenue, toute molle. L'œuf, tu sais très bien que si on le manipule indélicatement, qu'est-ce qui va se passer? On risque de le briser, donc il est fragile. T'as vu comment il est devenu maintenant? Dur. Eh oui. Et le café? T'as vu en entrant dans l'eau ce qui s'est passé? L'eau a changé de couleur. Et t'as vu maintenant le parfum? Tu y as goûté. Et tu m'as dit oui, il est bon. Alors il lui dit, maintenant, tu vois, tout va dépendre de la manière dont tu vas réagir dans l'adversité que tu vis maintenant. Et c'est vrai que je vous pose la même question. Comment est-ce qu'il vous arrive de réagir dans l'adversité quand justement les choses sont difficiles? Je dis vous, je me dis aussi. Je nous dis nous, finalement, eh bien sûr. Est-ce qu'on est plus carotte qu'œuf ou que café? Alors, je vais me servir de ces ingrédients, hein, tout simplement. En tant que croyant, eh bien, on peut fonctionner et réagir comme le fait une carotte lorsqu'elle est plongée dans de l'eau bouillante. Le moral, la santé psychologique, même spirituelle, la forme sont au beau fixe, justement quand, vous savez, le climat est bon. On est dans une bonne ambiance, tout est favorable, les circonstances sont formidables. Donc tout va bien. Et puis, comme ça ne dure pas toujours, c'est le monde réel dans lequel nous vivons, bien sûr, hein. Voilà qu'on est confronté à une épreuve, à une contrariété, à un obstacle, à une souffrance. Eh bien, on peut quelque part se ramollir et se laisser emprisonner par certaines choses. Je notais les craintes. Quand la crainte est là, on n'est plus aussi solide. Quand la crainte s'empare de nous, il y a des pensées qui nous viennent, l'inquiétude nous gagne, et puis on est vite abattu, vite résigné, en disant j'arrête tout. C'est comme ça. Alors bien sûr, il ne s'agit pas pour moi d'affirmer qu'il est anormal pour un chrétien de rencontrer, eh bien sûr, ces différents éléments. Des difficultés peuvent venir dans la vie. D'ailleurs, le Seigneur nous a avertis en cela, en nous demandant de prendre garde, de ne pas nous laisser justement envahir par ces choses-là. Jésus lui-même a été saisi par la tristesse et les angoisses à Gethsémané. C'était un moment particulier. Vous allez me dire, oui, c'est particulier, mais c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Amen. On va prendre un serviteur de Dieu qui était pas mal, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul reconnaît avoir côtoyé la détresse et l'abattement. Il le dit lui-même, il y a des moments où j'avais pu sortir vivant. Et c'était difficile. Est-ce que vous connaissez le prophète Élie? Formidable cet homme, hein, un homme de foi. Hein. Ben, il a réclamé la mort à un moment donné. Vous lirez un petit peu, hein, Roi chapitre 19, il y a tous les syndromes de quelqu'un qui va tomber dans la dépression. Tout est là, hein, vous regardez un petit peu les étapes, eh bien, à un moment donné, il va dire, Seigneur, écoute, prends-moi, je suis resté seul. Il était incapable de voir qu'il y en avait encore 7 000 debout. Eh oui, quand ça nous gagne. Job, formidable, le champion de Dieu, hein, parce que Job, c'est le champion de Dieu. Job, lui, il a regretté à un moment donné sa venue sur terre. Pourquoi ne suis-je pas resté dans le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que les jours que je vis sont si difficiles? Vous regarderez un petit peu la vie de Job. C'est particulier. Bien sûr, on sait quand on lit la conclusion que oh ben, il vaut mieux passer par des épreuves pour être béni. Mais est-ce qu'on souhaite vraiment cela? Alors, il convient de constater l'action dans toutes ces vies, l'action, le secours du Seigneur, dans toutes ces situations qui ont été vraiment douloureuses pour eux. Par contre, le danger pour un enfant de Dieu, eh bien, c'est de vivre en permanence avec ces éléments, vous voyez, qui nous envahissent. Au point qu'ils vont faire partie de notre mode de vie, et je dirais dans notre manière d'être. Je me souviens d'une sœur dans une certaine ville, je ne la nomme pas. On avait un stand biblique le samedi matin, et ce stand biblique, quelque part, c'est un petit peu la vitrine de l'église. Et, excusez-moi, mais on doit faire bonne figure. Parce que si on rajoute à la détresse de ce monde qui nous entoure, si on rajoute à la peine de ceux qui viennent nous parler, c'est pas comme ça qu'on va les aider et quelque part les orienter vers celui qui est la source. Il y en avait une sœur qui aimait venir au stand biblique, mais il m'a fallu lui dire à un moment donné, écoutez sœur, ne venez plus. Je regrette de vous dire ça, mais ne venez plus. Parce que quand une personne s'approchait d'elle, et puis en plus de ça, comme elle était connue, les gens s'approchaient d'elle. Hein. Elle a déversé toute sa peine, sa souffrance, tout ce qu'elle avait vécu dans la semaine de difficile. On vit tous des choses difficiles. Amen. Mais c'est comme si elle vivait avec en permanence. C'est pour ça qu'à un moment donné, il m'a fallu dire, écoutez, sœur, s'il vous plaît, ne venez plus. Faites autre chose, on va vous trouver quelque chose, mais ne venez plus. Parce que rajouter à la peine de ceux qui venaient justement pour être quelque part, aller un petit peu réconfortés, ils repartaient encore plus chargés, plus dans la peine. C'est difficile, mais il m'a fallu le faire, bien sûr. Hein. Alors la foi, nous avons la foi, la confiance dans celui qui est le Tout-Puissant. C'est-à-dire dans la puissance de Jésus, eh bien, ils sont alors étouffés, paralysés par nos pensées négatives. Par le fatalisme, c'est toujours comme ça. On ne sortirait pas. Alors, bien sûr, on devient un croyant, excusez-moi le terme, mais carotte. On devient comme la carotte, où ? Il n'y a plus le ressort, le dynamisme. C'est comme, vous savez, si on l'a trop tiré, le ressort, eh bien, il ne marche plus, bien sûr. Hein, on peut le compresser, où il va. Mais si on le tire trop, c'est fini. Il n'exerce plus sa fonction, bien sûr. Alors, c'était l'attitude des Israélites face à un géant. Goliath, l'armée de Saül composée d'hommes forts, durs, vous savez, comme la carotte, hein, pour reprendre l'expression, voilà qu'ils ont été ramollis et réduits à l'impuissance parce qu'ils ont reçu, allez, il y a des paroles assassines. Et il l'a dit, hein, vous êtes des rigolos là. Allez, qui c'est qui vient combattre contre moi? Moi je vais te broyer, je vais t'écraser, je vais te raccourcir. Et comme cela, eh bien tous ces chefs de guerre, vous voyez, ces hommes qui étaient l'armée d'Israël, eh bien ils se sont retrouvés comme des carottes. Voilà, plus de force, plus de dynamisme, la peur. C'est tout ce qui les avait envahis. Ils ne voyaient justement que le grand personnage. Ils ne voyaient plus la puissance de Dieu. Notre problème, il est là. C'est que quand on se laisse envahir par cela, parce que la souffrance est là, parce que eh bien, ces choses viennent et elles demeurent en nous, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on n'agit pas comme on le devrait, en laissant quelque part eh bien, le Seigneur nous atteindre, nous visiter, on fait comme eux, on ne voit plus que le géant, plus que la puissance qui est en face. Plus que la force de l'ennemi, on ne voit plus que cela. Amen. Je dirais de la même façon, des propos négatifs vont opérer une œuvre de destruction et vont nous maintenir dans la faiblesse. Et c'est pour ça, je disais, il ne faut pas les accepter. À un moment donné, c'est vrai, on subit le coup, puis il y a le contre-coup, mais après, est-ce qu'on doit demeurer comme cela? Alors il s'agit, bien sûr, de les repousser, de placer sa foi dans la parole de Dieu, on l'a entendu, dans un don spirituel. De placer sa foi dans la parole de Dieu. Jérémie va dire ceci, Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles. Vous voyez, j'ai recueilli. Je suis allé les chercher. Amen. Je les ai dévorées. Il a eu le temps de laisser travailler la parole de Dieu dans son cœur, dans son âme. Amen. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Ce qui va nous redonner du dynamisme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous du comportement des 10 envoyés ou 10 espions, appelez-les comme vous voulez, qui vont explorer le pays de Canaan. Ah oui. À la vue des difficultés, des obstacles, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont vu les productions du pays, le miel qui coulait, le lait, etc. Mais tout ça s'est vite oublié. Ils ont vu des géants. À leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Mais, vous voyez, à la vue des difficultés, des obstacles, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sombrer dans le découragement. OK. Mais le plus grave, c'est qu'ils vont également communiquer leur état d'esprit négatif à tout le peuple, au point que tous vont refuser de s'engager dans la conquête du pays promis. Vous vous rendez compte? Ça a été communicatif. Et voilà qu'une génération entière va devoir décéder dans le désert et ne pas entrer en possession du pays promis. Il y en a deux, Josué, Caleb. Eux ont choisi de placer leur confiance dans la présence, le secours et le soutien de l'Éternel. Amen. Et eux étaient convaincus de la réalisation des promesses de Dieu. Dieu l'a dit, il le fera. Amen. Il disait, allez, descendons, emparons-nous du pays. C'est comme ça qu'il faut être. Amen. Souvenons-nous également de la conduite des disciples lorsque Jésus a été arrêté. Moment particulier. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tous pris les jambes à leur cou. Et ils ont mis des distances. Hein. Ils ont fui. Parce que justement, ils s'étaient engagés à rester avec le Seigneur jusqu'à la mort. Mais ils vont se laisser envahir par autre chose. Voyez-vous, leur belle assurance, elle a été construite tout au long de ces années où ils ont vu eh bien, la puissance surnaturelle de Jésus. Elle a été manifestée, on le sait, par des miracles, des guérisons, des prodiges. C'était formidable. Vous vous réjouissez quand le Seigneur vous bénit. Eh oui. Puis voilà qu'au contact de la difficulté, de l'opposition, du danger, eh bien tout va s'envoler. Où était leur sécurité? Le Seigneur n'était plus auprès d'eux. Il a été arrêté. Puis tu entends leurs menaces? Mais qu'est-ce qu'on est, nous? Mais qu'est-ce qu'on est? Moi, je suis tout petit. Moi, je n'ai pas grand-chose. Vous comprenez? Pourtant, ils avaient été pendant environ 3 ans avec le Seigneur, à une école formidable. Mais tout ça a été placé de côté parce qu'ils se sont laissés envahir. Amen. Parlons de l'œuf. Confronté à la souffrance et à l'opposition, l'enfant de Dieu a un autre risque. C'est celui, à l'inverse de la carotte, de se laisser endurcir. L'amertume peut nous gagner, la rancœur bien sûr. On court le danger également de laisser développer en nous le ressentiment, qui peut aller jusqu'à la haine. Eh oui. Ainsi, certains en veulent aux autres, d'autres, bien qu'ils s'en défendent, sont en complète rébellion intérieure avec Dieu. Genèse 37,4 nous parle des frères de Joseph, vous connaissez l'histoire. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous savez, Joseph a fait part de ses rêves, de ses songes, et il a parlé en leur disant que le soleil, les étoiles, la lune, etc., tout se prosternait devant lui. Il s'adressait un peu à ses parents, ses frères surtout, parce qu'il disait quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on vienne se prosterner devant lui? Donc vous voyez, ça a fait germer des choses mauvaises. Le ressentiment était là. On affirme généralement que l'adversité rapproche l'homme du Seigneur. On dit, à ceux qui passent maintenant, c'est le moment, hein, il va se rapprocher de lui. Mais si on s'y penche de plus près, on réalise que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Eh oui. Plusieurs, même dans le cadre du salut, s'endurcissent. On dit, c'est le moment. Il va craquer devant Dieu, tu vas voir. Et non. Vous savez, lorsque la souffrance est mal gérée, elle génère souvent des sentiments négatifs qui produisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des paroles et des comportements agressifs, violents. D'autres, désabusés. Pour d'autres, ça va être un repli, je dirais, excessif sur soi. Vous voyez, c'est intérieur que ça va se passer. Eh oui. Ils vont s'enfermer. Et chez d'autres, c'est comme cela. En tout cas, le résultat est toujours une œuvre de destruction, de stérilité, bien sûr. Les Hébreux, une fois sortis d'Égypte, vont rencontrer leur première frustration. Au bout de combien de jours? 3 jours de marche dans le désert. Ils se sont retrouvés sans réserve d'eau. Il n'y a plus rien, on a soif, il fait chaud. Il fait bon là ce matin? Vous êtes bien? Ça va? Par la suite, ils ont été exposés à diverses épreuves. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, leur réaction charnelle a toujours été la même. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Béni soit le Seigneur pour le soleil et la chaleur. Sur la langue, Seigneur, je te bénis. C'était ça ? Non. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré contre qui ? Celui qu'ils avaient devant eux, Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? On était bien là-bas. Mon œil. Pensez qu'ils étaient bien là-bas ? Ils étaient esclaves. Ils travaillaient pour un salaire de misère. Ils subissaient le fouet. C'est pas vrai ? Privés de liberté, ils ne pouvaient rien faire. De même, lorsque les troupes de David, vous savez, ceux qui le suivaient, là, ce ramassis qui le suivait, bien sûr, sont arrivés à Tsiklag. Ah oui. Là, ils vont affronter l'horreur. Il y a eu un passage, ceux des Amalécites. Ils ont fait un pillage. Ils ont enlevé femmes et enfants. Et quand David va revenir avec ses troupes, il voit la fumée déjà dans la ville puisqu'elle a été mise à feu. Il n'arrive plus personne. Tout le monde a été enlevé. Et vous savez ce qui s'est passé ? Au lieu de chercher la face de Dieu, eh bien ces hommes vont commencer à lui en vouloir, à David. David devait se faire tout petit là. Mais il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Il s'est adressé au Seigneur. Eux, au lieu de faire agir leur foi tout simplement, mais voilà qu'ils vont s'endurcir parce que la douleur est là. Amen. Ils vont faire jaillir le malaise intérieur qui est en eux et ils vont déverser leur amertume sur David. Heureusement que David, lui, a fait ce qu'il fallait. Qu'il s'est adressé au Seigneur, qu'il a demandé la grâce et le secours de Dieu. Parce qu'après, ils sont allés, ils ont tout récupéré. Hein. Amen. Alors, ce que je veux faire ressortir là, c'est que la déception, l'opposition, la contrariété vont révéler si nous sommes des chrétiens œufs. Œufs. Quand il a été placé dans la casserole bouillante pendant 20 minutes au moins. Eh oui. Le café. Vous l'avez vu, quand le café, vous le faites tous les matins. Hein. Des fois, c'est votre cafetière qui le fait toute seule. Hein. Mais plongé dans de l'eau, ça devient beau, ça devient bon. Ça parfume. Ça dégage une saveur particulière. Hein, on le fait également pour d'autres choses, des tisanes, des infusions. Hein, vous plongez des feuilles de menthe ou de lavande, ça va libérer un parfum particulier. Hein. Lorsque vous écrasez également, c'est mon plaisir dans la nature, je le fais partager à mes petits-enfants, c'est que quand je suis dans la nature, je vois une plante que je connais particulièrement, et je dis tiens, ça va aiguiser son pain, son nez, hein, bien sûr. Hein, et j'y fais goûter. Des fois, j'y fais même goûter à la bouche. Hop. Ah. Mais c'est particulier, c'est comme ça. C'est vrai, ça dégage quelque chose de particulier. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons, nous sommes appelés à dégager ou à faire jaillir la bonne odeur de Christ. Amen. Le parfum de Christ, le parfum de Jésus. Dans le sens de refléter quoi ? Eh bien, la nature et le caractère de Jésus. Amen. Et oui, nous sommes invités quelque part à avoir un bon témoignage qui va d'abord réjouir le cœur du Seigneur, hein, quelles que soient les circonstances que nous pouvons rencontrer. Le Seigneur nous dit tout simplement, allez, fais-moi confiance, appuie-toi sur moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, nous avons un témoignage particulier, même si nous ne sommes pas conscients qu'on nous regarde, qu'on nous observe, mais pas, quand vous passez par la tempête, en face, il vous regarde, il dit, tiens, comment il va réagir ? Oh, ben, il n'est pas meilleur que moi. Hein. Ça, c'est dommage. Ou alors, autrement, tiens, t'as vu ? Moi, j'aurais hurlé, je serais allé frapper à toutes les portes. Regarde-le, lui, il est tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, ça fait réfléchir. Et c'est un petit peu dans ce sens que Paul dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Jacques, chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est une question. Eh bien, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qu'il montre. Vous voyez la démonstration. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 1 Pierre 2,12. Pourtant, si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Pierre, capable de couper l'oreille, hein, capable de s'interposer même au plan de Dieu. Hein. Tu n'iras pas à la croix, Seigneur. Mais là, quand même, il s'est passé quelque chose parce qu'il est capable de nous donner, lui, ce conseil formidable. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Parce qu'un jour, il va les visiter. Amen. Un jour, il va prendre soin d'eux. J'arrivais dans une certaine ville, j'avais un plâtre. J'ai fait du roller et puis je me suis pris une drôle de gamelle, fracture du poignet, hein, c'est une fracture très compliquée, hein, écrasement du scaphoïde, semi-lunaire, longitudinale la fracture, rupture des tendons, etc. C'est une grosse fracture. Donc j'ai pris l'église avec le plâtre. Heureusement que je suis ambidextre, hein, je suis gaucher-droitier. Donc j'ai pu signer les papiers, prendre l'église et commencer à travailler. Je me marie pas de me piloter tous les jours parce que je ne pouvais pas conduire. Mais je me suis retrouvé donc à l'issue de ces 3 semaines de plâtre, donc à devoir être réexaminé, cette fois-ci à l'hôpital où j'habitais maintenant. Et dans la chambre, je vois arriver à un moment donné, eh bien, un infirmier. Et il vient me voir, me saluer. Et il y avait d'autres infirmières qui étaient là. Et il vient me saluer et me dire, voilà, je suis membre de l'église. Ok, enchanté. Je découvrais, moi j'arrivais. Et puis, il est sorti, et là j'entends une infirmière qui me dit, c'est un de vos fidèles, lui. Eh bien, bon courage. J'ai dit, oh là 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 là. Quel témoignage. Quel témoignage. Vous voyez un petit peu? Alors, à mon humble avis, la meilleure façon de toucher les cœurs et de glorifier Dieu, c'est d'avoir une bonne conduite. Comme le dit l'apôtre Pierre, hein, même si on est calomnié, même si on est traité comme des malfaiteurs, allez, les bailleurs du monde, c'est ce que dit l'Écriture. Mais qu'au moins ils remarquent le bienfait qu'on veut leur apporter, leur communiquer. C'est-à-dire qu'ils voient nos bonnes œuvres. Amen. Alors bien sûr, il faut bien avouer que l'adversité est le produit, logiquement, chez tout individu, des réactions épidermiques, excusez-moi, charnelles bien sûr, hein. Je les ai citées plus haut, mais vous savez qu'il n'est pas naturel de manifester les qualités de Dieu, ça sort comme ça, voilà, on est humain, je sais pas moi, pensez-vous. Et oui, mais c'est comme ça. Alors dans ce but, il est essentiel d'apprendre, parce qu'on apprend de la vie. Amen. D'apprendre, comme dit l'Écriture, à renoncer à soi-même, aux tendances naturelles bien sûr. Et pour cela, eh bien, il faut avoir voulu autre chose. C'est-à-dire être imprégné d'une autre nature. De la nature du Seigneur, afin de pouvoir dégager les mêmes effluves, les mêmes arômes spirituels que lui. Alléluia! C'est tout l'enseignement de l'apôtre Paul, quand il encourage les chrétiens à mourir à eux-mêmes en se donnant entièrement à Dieu. Afin que la vie de Jésus se développe d'une manière harmonieuse dans les vases humains que nous sommes les uns et les autres. Amen. C'est comme ça. Et là, il s'opère quelque chose, c'est le miracle. Mais il faut faire des choix. Là, j'ai noté, choisir de ne pas parler et agir selon la vieille nature. C'est-à-dire, humainement parlant, je réagis. J'appelle ça agir par réaction. Et agir par réaction, c'est jamais bon. Notre problème, c'est souvent ça. On agit, c'est-à-dire qu'on réagit à une situation. Mais on réagit de quelle manière? Alors, il faut agir de la bonne manière, de la bonne manière. Il s'est opéré un miracle. Je suis devenu enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans les cieux. Alléluia! Mais ce n'est pas parce que je le dis. C'est parce que je vais le vivre. Et parce que je vais le vivre, je vais offrir la possibilité au Saint-Esprit de produire en moi le fruit qui émane de Jésus. Le modèle, c'est lui. Amen. Voilà qu'au sein de la tempête, on est rendu capable d'expérimenter la paix, la tranquillité, la joie. Alléluia. On est serein. C'est lui qui est à la barre. Amen. Il est au gouvernail. Alléluia. Puis on n'est plus tempérant. On ne s'emporte plus. Eh oui. Le Seigneur manifeste ses fruits dans notre cœur. Alléluia. Voilà que la force de Dieu est déployée dans notre être intérieur pour nous conduire à triompher de l'adversité. Moi, il m'est arrivé à des moments de m'asseoir face à l'adversité. Je disais, mais Seigneur, justement, je t'ai demandé dans ce domaine-là de me faire progresser. Et je suis en train de voir que je suis, mais alors, pressé par les autres. Seigneur, il faut que je m'assoie et que je te bénisse. Que je te bénisse, je dis bien. Parce que c'est un test. C'est un test de ta part. Amen. On n'est pas toujours conscient quand on est pris au dépourvu, quand on n'est pas préparé. Eh oui. Ah oui, le Saint-Esprit réalise l'œuvre de Dieu selon le degré d'abandon, de confiance, de foi et de persévérance que nous allons avoir. Amen. Ainsi, même si les circonstances vont demeurer difficiles, parce que je ne vous dis pas qu'à partir de là, il n'y aura plus d'épreuves, plus de difficultés. Non, ce sera toujours là. Mais on sera rendu capable, grâce à Dieu, de vivre une véritable harmonie morale et spirituelle. Alléluia, on est tranquille. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur polonais, c'est lui qui a organisé la résistance face au nazisme à l'époque, va dire ceci. Seule la souffrance et l'endurance produisent l'œuvre parfaite. Amen. Seule la souffrance et l'endurance, ou la persévérance, vont produire une œuvre parfaite. Amen. Je vais conclure. Des hommes ont vécu cette dimension que nous sommes appelés à atteindre. Vous connaissez l'histoire de Joseph? On y revient, hein? Joseph. On a vraiment été injuste avec lui. Hein? Au sein de sa famille, ses frères, un Potiphar. Il va se retrouver en prison. Il va aider des collègues de prison qui vont l'oublier, etc., etc. Est-ce que vous pouvez lire que Joseph, à un moment donné, a dit « J'en peux plus, je laisse tout tomber. » Ou alors « Attendez que je sorte et vous allez voir si je m'en sors. » Non. Quelque part, il a communiqué cette bonne odeur qui était en lui. Amen. Autour de lui. Les trois amis de Daniel devant la mort. Il n'y avait pas que la menace, là. Il y avait la chaleur aussi. Hein. La fournaise était là. Le Seigneur était au milieu d'eux, puisqu'il y avait un quatrième homme. Alléluia. Les apôtres, lorsqu'ils sont confrontés à l'opposition, acte 5, verset 40, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. OK? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir les outrages pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Eh oui. Et chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas devenu des chrétiens garantes. Hein? On a compris maintenant, on a pris des coups, on arrête. Hein? Ou on va se faire tout petit, on ne va pas les déranger. Non, ce n'est pas ça, ils ont continué. Étienne. Martyr, hein? Il est lapidé. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, surtout, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Eh oui. Paul, lorsqu'il est en prison. Seigneur, je fais ton œuvre. On m'arrête, on m'emprisonne. Qu'est-ce que je fais là? Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? Avec Silas, bien sûr, il n'est pas seul. Hein? Il chante, il loue. Ils adorent le Seigneur. Et bénisse celui qui qui les a conduits en prison. Mais vous avez vu ce qu'il en ressort? Le salut de toute une famille. Et je pense, parce qu'on n'en parle pas par la suite, mais tous ces prisonniers, vous croyez qu'ils n'ont pas été insensibles? Non, ils n'ont pas été sensibles justement à ce qui s'est passé? Je crois que oui, hein. Amen. Alors voyez-vous, chacun est destiné à développer sa communion, son intimité, je dirais de cœur. Vous voyez, c'est pas « Ah si, je le fais pas, attends. » Non, non, c'est « Je le fais parce que j'aime le Seigneur. » Amen. Voilà qu'il y a une véritable relation vivante qui va croître en nous, tout simplement. Et c'est dans ce cadre, justement, qu'on est de plus en plus imprégné de la vie, du caractère de Jésus, qu'on est capable. Et vous verrez que, je vais pas vous faire peur, mais les épreuves et les souffrances vont aller crescendo, hein, bien sûr. Hein. Mais on va vaincre tout ça. On sera pas désarmé. Amen. Parce qu'au contact de la diversité, eh bien, ça va avoir un impact sur notre environnement, au point de transformer, comme le café dans l'eau bouillante plongée, transformer l'atmosphère. C'est ce qui va se passer autour de nous. Hein. Il y a des situations dont on dit, mais il n'y a pas de solution humainement parlable. Mais voilà que la solution va arriver, parfaite, non pas humaine, mais divine. Amen. Parce que le Seigneur prend plaisir à honorer notre vie d'enfant de Dieu. Amen. Il prend plaisir justement à intervenir et changer les contextes, tout simplement pour nous apporter sa bénédiction. Elle va être pour nous, mais elle va rejaillir sur ceux qui nous entourent. Amen. Vous vous rappelez de Sodome? Seigneur, viens faire part à Abraham. Je vais la détruire. Seigneur, s'il y a 50 justes, le pauvre. Il savait qu'il n'y aurait pas 50 justes. Hein. Il n'y en a même pas eu 5. Parce que qui va s'en sortir? L'autre, sa femme, qui va rester en chemin, et ses filles. Mais le Seigneur n'a pas détruit la ville tant que ces justes ne sont pas sortis de la ville. Amen. Vous voyez comme quoi, hein, tout simplement, la prière finalement d'Abraham était comme un parfum de bonne odeur. Amen. Il pourrait se réjouir. Je détruis une ville adverse. Pas du tout. Il y a également l'attitude remarquable, oh, pas que d'elle, mais de lui aussi, c'est Mardochée et Esther. Face à la menace qui pesait, hein, Dieu va se servir d'eux parce qu'ils étaient vraiment de tout cœur unis au Seigneur pour sauver toute une population, le peuple juif, de l'extermination. Il y a le livre des Actes qui montre la multiplication de l'Église. Oh, dans un contexte plutôt défavorable que favorable. Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, nous dit l'Écriture, ils sont devenus amis. Amis pour quoi faire? Pour stopper l'œuvre de Dieu. Pour persécuter les chrétiens. Pour faire obstacle et ombrage à l'œuvre du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça continue à multiplier? Pourquoi les églises ont continué d'avancer? Eh bien parce que les enfants de Dieu, les chrétiens, donnaient leur vie au Seigneur de tout leur cœur. Et ça a touché ceux qui les voyaient. Amen. Et aussi, eh bien, ils se laissaient convaincre par l'action du Saint-Esprit. Amen. Combien de leurs contemporains sont passés de la mort à la vie? Combien de contemporains, de nos contemporains à nous, vont passer de la mort à la vie? Parce que nous allons leur montrer que même si nous souffrons, nous sommes bien. On n'est que de passage ici-bas. Amen. C'est notre pèlerinage ici-bas, en ce moment. Alléluia. On tourne les regards vers le Seigneur. On avance, on le glorifie et lui nous fait du bien. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ces multiples exemples. Merci pour ta patience également envers chacun de nous, Seigneur.